Combien nous pouvons nous réjouir lorsque nous entendons quelqu'un rendre un témoignage sur nous en mettant en avant parfois ce que nous avons fait, ce que nous avons par la manière dont nous avons agi. Nous allons lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres. Et là, ce sont les disciples, les apôtres eux-mêmes, qui vont rendre témoignage de la manière dont Jésus a agi lorsqu'il était sur la terre. Ils étaient les témoins oculaires de l'œuvre de Jésus. Ils ont vécu pendant 3 ans et demi en cheminant avec lui, en marchant avec lui. Ils ont vu des miracles, des délivrances, des guérisons. Parfois, même, ils n'avaient pas tout compris dans ce que faisait Jésus. Mais les apôtres, lorsque Pierre va prêcher Christ chez Corneille, il va rendre ce témoignage sur Christ en disant ceci. Et nous lisons ce témoignage dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. À partir du verset 38, voici ce que Pierre dit. « Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. » Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Amen. Oui, nous, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Quelqu'un tout à l'heure dans sa prière a dit « Oui, nous savons que tu vas nous faire du bien ». Oui, faire du bien. Le Fils de l'homme venu sur la terre. Les apôtres témoignent de la vie de Jésus et de l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre. S'il est vrai que la mission première du Seigneur était de sauver. Sa mission première était de révéler à l'humanité tout entière l'amour de Dieu. Et conduire les hommes vers Dieu. Il le dira lui-même dans Luc au chapitre 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà la mission première de Jésus. Et nous, lorsque nous prêchons l'Évangile, quand nous prêchons Christ, nous mettons toujours en avant le but pour lequel Jésus est venu sur la terre. Son but premier, c'était de souffrir à la croix, de mourir pour le pardon de nos péchés, de restaurer la vie des hommes qui a été dévastée par le péché, de ramener à la vie ce qui est mort. Et si, pour Jésus, son point de focus même était le salut, c'est ce que signifie son nom, l'Éternel sauve. C'est ce qu'il est venu faire sur la terre. C'est ce qu'il est venu accomplir. Et il n'en demeure pas moins que, voilà, qu'il ne pouvait pas ignorer, alors qu'il était sur la terre, les différents besoins des uns des autres. Je ne vois en aucun cas, dans la parole de Dieu, Jésus qui est passé outre une situation, une difficulté, un besoin que quelqu'un avait, et il est passé outre sans s'en occuper. Je ne vois pas. Le Seigneur, même s'il était pressé, même s'il était occupé, il trouvait toujours un moment, un temps pour s'occuper de ceux et celles qui étaient dans le besoin. Parfois, nous ne voulons pas que les gens nous dérangent quand nous avons un programme. Nous ne voulons pas que quelqu'un vienne bousculer nos programmes. Nous avons tellement des choses, déjà des programmes bien ficelés. Et quand quelqu'un vient pour nous bousculer, cela nous dérange. Mais le Seigneur Jésus a toujours su donner du temps. Et il a toujours su tendre la main à ceux et celles qui étaient dans le besoin. Le besoin le plus vital, on le sait, c'est que tous les hommes fassent la paix avec Dieu. c'est que tous les hommes arrivent à connaître Dieu, à s'abandonner à lui et à marcher comme il le veut. C'est l'essence même de l'évangile que nous prêchons. Dieu qui est venu par son fils Jésus pour sauver les hommes. L'apôtre Paul dira dans son épître aux Romains au chapitre 1er verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est ce qui fait l'objet même du message que nous prêchons, le salut en Jésus. Mais nous pouvons nous rendre compte que il y a une nécessité. Oui, il y a une nécessité de faire la paix. Il y a un besoin de s'abandonner à Dieu. Regardons autour de nous. Nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes qui sont livrés à eux-mêmes. Les hommes, parfois certains vivent comme s'ils étaient leur propre chef, ils étaient leur propre maître. Et on ne fait pas cas de Dieu. Mais il y a besoin de se tourner vers Dieu. Mais Jésus, quand il était sur la terre, il ne prêchait pas seulement le salut. C'était quelque chose d'important. Je le répète, on prêchera toujours le salut dans ce lieu. Le jour où on viendra à ne plus prêcher le salut, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci quelque part. On prêchera toujours l'amour de Dieu. On prêchera toujours le péché qui est venu entacher et que Dieu, par amour, a livré Jésus. On prêchera toujours la repentance. On prêchera ces choses. Mais on ne peut pas oublier non plus ce que Jésus a fait. Bien qu'il soit venu pour sauver les hommes, bien qu'il soit venu pour ramener les hommes à Dieu, il a toujours eu compassion de ceux et celles qui étaient dans le besoin. Alors, vous savez que les hommes que nous sommes, nous avons toujours besoin que les paroles s'accompagnent d'actes. Il n'y a rien de nouveau. On n'aimera pas quelqu'un qui passe son temps à prononcer des paroles sans agir, n'est-ce pas? On voudrait aussi que nos paroles soient accompagnées des actes. Jésus, quand il prêchait l'évangile, Il ne prononçait pas simplement des paroles. Il y avait des actes qui suivaient. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va annoncer alors qu'il est chez Corneille. Il prêche le Christ. Pierre est celui qui a vécu pendant Jésus, pendant 3 ans avec Jésus. Il a vu Jésus agir. Il a vu comment le Seigneur a sauvé, comment le Seigneur a guéri, comment le Seigneur a délivré. Et il ne s'est pas simplement contenté de parler du salut. Il a également parlé des actes que Jésus a accomplis. C'est pour cela qu'il dira, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Allant de lieu en lieu, faisant du bien, nous montre par là qu'il y avait des besoins. Faisant du bien, allant de lieu en lieu, nous montre par là que à des moments donnés, des hommes et des femmes étaient dans des difficultés. Il y avait des situations qui échappaient à l'entendement des hommes. Il y avait des circonstances auxquelles les hommes ne pouvaient pas s'en défaire. Mais Jésus, celui que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, était capable de venir en aide. Et encore aujourd'hui, oui, le Seigneur, nous avons foi, nous avons confiance, nous avons cette assurance que le Seigneur, encore aujourd'hui, est capable d'agir, quelles que soient les circonstances, parce que c'est lui que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Et il n'y a aucune situation qui lui soit impossible. Alors, nous voulons cet après-midi, tout en prêchant, bien sûr, que Jésus est venu pour sauver, Nous voulons également, au regard des temps dans lesquels nous sommes, nous voulons que les hommes sachent aussi que Dieu peut s'occuper de leurs besoins, que Dieu peut leur venir en aide, qu'il n'est pas seulement celui qui est assis sur son trône et qui prononce des paroles, mais il est également celui qui est là au quotidien par sa puissance, par son bras puissant pour venir en aide à ceux et à celles qui sont dans le besoin. Quand nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs passages qui nous parlent des œuvres que Jésus a accomplies. Et j'aimerais vous amener à lire ce qui est écrit dans l'évangile de Marc, Matthieu au chapitre 8. Dans ce chapitre, nous pouvons voir des œuvres, des actes que Jésus a faites, pas uniquement le salut qu'il prêchait, pas uniquement des âmes qu'il sauvait, mais aussi en montrant parlant que l'amour de Dieu s'étend à l'infini et qu'il prend plaisir à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. À partir du verset 1er, nous lisons ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Oui, il est question de la guérison de cet homme, de ce lépreux. À l'époque de Jésus, le mot grec traduit par lèpre désignait plusieurs maladies similaires, plusieurs maladies qui avaient la même forme, dont certains étaient même très graves, parce que à l'époque, on avait du mal à trouver un remède pour cette maladie. Aujourd'hui, nous trouvons malheureusement également des maladies similaires. Quand on parle de cancer, il y a plusieurs sortes. Même si aujourd'hui on arrive à trouver des remèdes pour le cancer, nous nous rendons compte que malheureusement beaucoup d'hommes et de femmes meurent à cause du cancer. Il y a d'autres maladies similaires qui font des ravages. Et Jésus est encore capable aujourd'hui d'agir. Mais le texte nous montre que c'est le lépreux qui s'est avancé de Jésus. C'est lui qui s'est approché pour le solliciter. Il dira, si tu le veux, il s'approcha se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a sollicité Jésus. Il savait que Jésus pouvait agir en sa faveur. Alors, il s'est avancé. Il a osé. Parce que celui qui avait la lèpre était mis à l'écart. Il ne devait pas se mêler à la foule. Mais lui, il a osé s'approcher de Jésus. Et en tant que juif, si Jésus touchait même le lépreux, normalement, il devait être impur, mais il était Dieu. Lui qui pouvait passer outre cette règle de la loi, il a osé laisser le lépreux s'approcher parce qu'il voyait le besoin que cet homme a aujourd'hui. Bien que Dieu veut agir encore aujourd'hui, il advienne que les hommes le sollicitent. Oui, beaucoup s'attendent en disant, malheureusement parfois même dans nos églises, Dieu sait tout, Dieu peut tout. Et on ne prend pas le soin d'aller vers lui. On ne prend pas le soin de montrer que nous avons besoin réellement de lui. Cet homme pouvait rester là où il était. Mais s'il était resté là où il était, il serait resté dans sa situation. mais il a osé. Cet après-midi, j'aimerais, vous qui entendez cette parole, que vous osiez vous approcher de Dieu. Que vous osiez, en dépit de votre circonstance, de votre situation, même si aux yeux des hommes, il n'y a point de solution possible, osez solliciter celui qui en a la capacité. L'apôtre Pierre dira, c'est lui que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Bien qu'il ne soit pas présent au milieu des hommes aujourd'hui, Jésus veut encore faire du bien. Il a vu le besoin de ce lépreux. Il a vu la souffrance de cet homme. Et si rien n'était fait, peut-être que cet homme allait continuer à souffrir et peut-être même mourir de cette maladie. Mais Jésus, ayant la capacité de l'en délivrer, il va répondre à la sollicitation de cet homme. Oui, lorsqu'on ose s'approcher de Dieu, lorsqu'on ose aller vers lui par la foi, avec assurance, sachant qu'il a la capacité de nous venir en aide, Dieu ne reste pas indifférent. Oui, cet après-midi, rappelons-nous qu'il ne reste pas indifférent. Ce qui l'attend, c'est que les hommes que nous sommes, nous placions notre confiance en lui. La preuve en est que lorsque cet homme va solliciter Jésus, il nous est dit ceci. Jésus étendit la main, le toucha. Il est passé à l'acte. Il y avait le besoin. Il ne s'est pas simplement contenté de prononcer une parole. Parfois, Jésus par une parole, et nous verrons cela par la suite. Rien que par une parole, Jésus peut faire du bien. Mais là, Jésus agit. Il étend sa main, il touche cet homme, et il nous est dit aussitôt, dans l'immédiat, cet homme fut guéri de sa lèpre. Parfois, il y a des circonstances qui traînent et nous ne comprenons pas. Bien que l'on prie pour ces situations, nous ne savons pas pourquoi. Mais nous souvenons-nous, Dieu est souverain et ce n'est pas parce que ça traîne que nous allons arrêter de le solliciter. Mais à chaque fois, par la confiance que nous plaçons, nous voulons tous les jours nous attendre à sa grâce. Au verset 5 du même chapitre, nous voyons une autre situation. Parce que il n'y a aucune situation qui échappe à l'entendement de notre Dieu. Ce matin, pour ceux qui étaient là, je disais que voilà, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Non, il n'est jamais pris au dépourvu. Quelles que soient les circonstances, il peut agir. La preuve en est que, après le lépreux, il nous est dit ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis, Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi et à l'heure même. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. à l'heure même. La foi de cet officier va conduire à la guérison de son serviteur. Il sollicite Jésus, tout comme le lépreux a sollicité Jésus, et il manifeste sa foi en disant « Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit », mais dis simplement un mot. Lui, sa foi en Jésus était telle qu'il avait cette assurance que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer, mais que par ses paroles, il associait la puissance de Dieu aux paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Oui, ce qui sort de la bouche de Jésus est encore capable aujourd'hui d'accomplir des miracles. Il dira, dis seulement un mot. Quelle foi ! Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tout à l'heure, je disais que parfois, Jésus agit, même s'il a la capacité de prononcer une parole pour guérir. Le premier cas, il est allé, il a touché le lépreux et il a été guéri. Et là, dans cette situation, à cause de la foi de cet homme et pour honorer la foi de cet homme, Jésus a simplement recommandé à cet homme de retourner chez lui parce qu'il avait la pleine capacité de guérir cet homme même s'il n'y était pas physiquement. Parce qu'il n'est pas limité. Aucune porte, aucun mur, aucune barrière ne peut empêcher la puissance de Dieu d'agir. Montrant par là pour quelqu'un cet après-midi, quelle que soit la circonstance, quel que soit ce que tu vis, Jésus est encore capable aujourd'hui de prononcer une parole et de te faire sortir de cette situation. Malheureusement, parfois, ce sont nous les hommes qui érigeons des barrières. Et ce qui empêche le Seigneur d'agir pour nous faire du bien. Dans la parole de Dieu, nous avons un récit qui montre que Jésus aurait voulu faire du bien aux hommes, mais par leur incrédulité, le centenier, beaucoup d'obstacles pouvaient l'empêcher de vivre la puissance de Dieu, déjà par sa situation. Sa situation pouvait engendrer de l'orgueil. Par sa situation, cela pouvait engendrer également le regard des autres. Il pouvait se dire, que vont penser les autres? Moi qui suis officier, pourquoi je vais aller me soumettre à quelqu'un d'autre? Il y a tous ces paramètres-là. Mais là, il va aller au-delà de cela pour solliciter Jésus. Et parfois, ce sont des barrières que nous érigeons, les hommes érigent, ce qui empêche la puissance de Dieu. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, regardez ce que l'indignation de Jésus lorsqu'il va rentrer dans sa ville. À partir du verset 2, on lit ceci. « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'étonnait. Vous savez, refuser de croire que Jésus est venu sur la terre pour nous apporter l'aide dont nous avons besoin, voilà quelque chose qui est un obstacle à sa puissance dans nos situations parfois, dans nos vies. Il n'a pas pu faire de miracle à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de confiance, de leur manque de foi. Cet après-midi, veux-tu croire que Jésus peut et qu'il veut te venir en aide ? Pour l'officier, sa foi a même émerveillé Jésus. Il va se retourner en disant à ses disciples, « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Cet homme qui avait l'autorité va reconnaître l'autorité de Jésus sur sa vie et sur sa situation. Veux-tu, cet après-midi, reconnaître que Jésus est au-dessus. Et le résultat pour cet homme également, c'est qu'au même moment, le serviteur fut guéri. Ah, je me réjouis de savoir que le Seigneur, en dépit des circonstances, des différents besoins, agit différemment, et ce, pour rendre gloire en son nom. Il est capable d'agir encore aujourd'hui. Ne le limitons pas. Ne l'empêchons pas d'agir. Il est venu sur la terre pour sauver les hommes. Ça, c'est une réalité et ça restera notre point de focus quand nous prêchons l'évangile. Mais nous ne voulons pas oublier le fait également que Jésus veut prendre soin de nos besoins. Il veut s'occuper de nous, quel que soit ce que nous pouvons vivre. Si toutefois, nous avons besoin de solliciter Jésus en manifestant notre confiance pour qu'il nous fasse du bien. Il arrive, qu'il agisse sans que l'on lui demande. Voilà, au verset 14, nous pouvons en lire, on continue dans la lecture de Matthieu 8. Il continue Jésus et il va aller dans la maison de Pierre, et en se rendant dans la maison de Pierre, il nous est dit qu'il vit la belle-mère de Pierre couchée et qui avait de la fièvre. Pierre ne l'a pas sollicité. Du moins, ce n'est pas ce que nous lisons dans l'Écriture. Le lépreux a sollicité Jésus. L'officier a sollicité Jésus. Et là, Jésus se trouve dans une situation où il voit la belle-mère de Pierre couchée avec de la fièvre. Et nous lisons qu'il toucha sa main et la fièvre la quitta. Montrant par là que Jésus connaît nos besoins. Quel que soit, parfois nous cachons des choses, parfois nous ne voulons pas que les autres sachent, mais lui qui est omniscient, il peut lire à l'intérieur de nos cœurs et pour nous révéler réellement ce qu'il y a. Jésus, en faisant du bien, était animé de compassion. C'est parce qu'il aimait les hommes. Et encore aujourd'hui, nous voyons combien Jésus aime les hommes. C'est son amour qui l'a poussé aller à la croix. Sans l'amour de Dieu, Jésus ne se serait pas crucifié à la croix. Mais il l'a fait par amour. Et quand il faisait du bien, il manifestait par là son amour. Ce n'est pas seulement de la pitié ou de la sympathie qu'il manifestait. Parfois, nous pouvons avoir de la pitié pour quelqu'un ou juste de la sympathie pour venir en aide à quelqu'un. Mais Jésus ne manifestait pas uniquement de la pitié. Il allait au-delà. Il était ému de compassion. Il était touché à l'intérieur de lui-même, au point parfois de verser des larmes quand il voyait des situations. Ému de compassion, c'est ça qui va le pousser à agir, à l'action. Dans Matthieu chapitre 9, nous voyons comment la compassion a poussé Jésus à agir. Il voit la foule qui est là, la foule qui le suivait, et il réalise qu'il y a quelque chose qui manque à cette foule. Il nous est dit ceci au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Ce que Jésus a fait, il attend de même pour que les hommes le fassent. Vous savez, être touché par le besoin de quelqu'un, des autres, au point de vouloir leur faire du bien. Dans notre société, nous voyons des hommes qui font du bien. Beaucoup, nous connaissons des grands noms de personnes qui ont consacré leur vie à faire du bien autour d'eux. Et même encore aujourd'hui, plusieurs font du bien à ceux qui sont dans le besoin. Mais Jésus va pousser la barre plus haute quand il va enseigner sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, Jésus va nous montrer que faire du bien va au-delà parfois de ce que nous pouvons comprendre et accepter. Il dira ceci: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Et après, il dira ceci: faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je vous prie de croire que cette dernière parole n'est pas facile à réaliser. Faire du bien à quelqu'un qui me haïsse. Comment est-ce que je, en tant qu'homme, est-ce que je peux le faire? Comment rechercher le bien de quelqu'un alors que la personne ne veut pas me voir? Et pourtant, Jésus nous appelle à surmonter le mal par le bien, pour ainsi montrer que voilà, c'est lui qui est le maître de nos vies. Quand j'abandonne ma vie entre les mains du Seigneur, quand je dépose tout entre ses mains, il me donne la force. Souvenez-vous de ce que Pierre va dire: c'est Jésus que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. C'est lui qui nous donnera la force. Humainement, je suis incapable de faire du bien à quelqu'un qui me haït. Nous sommes incapables de faire du bien à quelqu'un qui nous haït. Mais c'est un amour qui n'est possible que si nous donnions entièrement notre vie à celui qui est venu jusqu'à nous pour nous faire du bien. Je termine en faisant du bien aux hommes. De lieu en lieu, Jésus manifestait son amour à leur égard. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par amour que Jésus a accepté la souffrance de la croix. Lui qui n'avait commis aucun tort pour subir cela. C'était les brigands, les meurtriers qui devaient mourir, souffrir à la croix. Ceux qui avaient commis des délits graves, la croix leur était réservée. Et Jésus, en acceptant d'être considéré comme un malfrat, alors qu'il était innocent, ne manifestait-il pas par là son amour à l'égard des hommes? C'est par amour qu'il a accepté de souffrir, et ses souffrances étaient le moyen de nous montrer qu'il veut notre bien pour nous sauver et pour nous venir en aide. La question que j'aimerais que l'on se pose cet après-midi: chacun se connaît. Quel besoin avez-vous pour que vous voudriez que Jésus vous fasse du bien? Quel est le besoin? Quelle est la difficulté? Quelle est la souffrance? Quelle est cette situation qui est au-delà de votre compréhension? Quelle est la situation qui vous fait souffrir? Et parfois, les larmes coulent à l'intérieur de vous. Vous êtes incapable d'agir. Vous êtes impuissant face à cette situation, à ce problème, à cette difficulté. Mais souvenons-nous de ce que Pierre a dit. C'est ce Jésus que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, et il allait de lieu en lieu faisant du bien. Croyez-vous qu'il est capable aujourd'hui de vous faire du bien? Croyez-vous qu'il est capable aujourd'hui de répondre à votre besoin? Croyez-vous qu'il est capable de vous étonner, de faire une œuvre qui puisse étonner les hommes? Oui, moi je le crois. Je crois qu'il n'y a aucune situation qui lui soit impossible. Je ne crois qu'il y a aucune situation qui échappe à son entendement parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'en étant sur la terre, Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force pour qu'il puisse supporter et nous venir en aide dans toutes nos situations, dans tous nos besoins. Oui, c'est ce Jésus-là. Et nous prêchons que son nom soit glorifié. Il est venu sur la terre. Je termine avec ceci. Pour nous sauver. C'est par amour qu'il a livré sa vie. C'est par amour qu'il a enduré cette souffrance alors qu'il était sur la terre. Beaucoup l'ont injurié. Tout à l'heure, nous avons lu, certains se disaient, on le considérait uniquement comme le fils du charpentier. On le considérait uniquement comme le fils de Marie. Pour eux, c'était un vulgaire homme, un simple homme qui était là. Et certains le considéraient comme un imposteur. Mais Pierre nous rappelle en disant ceci, c'est lui que Dieu a oint du Saint-Esprit. L'onction de Dieu a été sur lui, la puissance de Dieu a été sur lui. Et par cette puissance, rien ne peut lui échapper. Aucune situation. Nous allons fermer nos yeux. Ce que je viens de vous dire, nous le lisons dans la parole de Dieu. Et nous croyons que tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu nous vient du Seigneur. Cet après-midi, alors que les yeux sont fermés, y a-t-il quelqu'un qui est dans le besoin et qui s'attend vraiment à la grâce de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui, dans son désarroi, dans son incompréhension, souhaite que Jésus, celui qui allait de lieu en lieu pour faire du bien aux hommes, croyez-vous que cet après-midi, il est là au milieu de nous et qu'il veut vous faire du bien? Y a-t-il quelqu'un qui veut le solliciter cet après-midi? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait présenter sa situation, sa condition à celui qui peut tout? Nous voulons simplement prier pour vous en demandant à Dieu d'agir. Simplement, si vous avez besoin de l'intervention du Seigneur, levez simplement la main. Nous allons prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un? Oui. Quelqu'un voudrait le solliciter. Vous qui avez levé la main, faites comme ce lépreux. Faites comme cet officier. Sollicitez-le. Même si Jésus est capable d'agir, même si vous n'ouvrez pas la bouche, cet après-midi, manifestez votre foi, votre confiance. Dites-lui, Seigneur, viens-moi en aide. Dites-lui, Seigneur, je remets cette situation. Je t'en supplie, Éternel. puisque tu faisais du bien, puisque tu as agi, les besoins étaient multiples, les situations ne se ressemblaient pas, mais en toute chose, tous ceux qui t'ont sollicité, Seigneur, tu as agi. N'es-tu pas encore capable aujourd'hui, à ces instants même, à cette heure même, n'es-tu pas capable d'agir? Manifestons notre confiance pendant que l'Église prie. Tous ensemble, nous voulons en crier à Dieu. Nos besoins sont différents, mais nous savons que la réponse à nos besoins nous vient de notre Seigneur Jésus. Seigneur, c'est avec humilité, oui, que nous nous tenons là cet après-midi, bénissant notre Seigneur. Oui, nous l'avons chanté, nous louons le nom de l'Éternel, celui qui est venu du ciel sur la terre pour nous montrer la voie. De la terre, il est monté à la croix, de la croix, il est descendu du tombeau, et du tombeau, par la puissance de Dieu, tu es sorti, et aujourd'hui tu es assis à la droite du Père, et tu intercèdes en faveur de ceux, celles, Seigneur, qui croient en ton nom. Alors cet après-midi, tu as vu toutes ces personnes, tu connais leurs besoins. Nous te supplions, par le nom puissant de Jésus, d'intervenir en leur faveur, Seigneur, afin que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, Seigneur, oui, et même à cet instant même, Seigneur, oui, il y ait la manifestation de ta puissance pour qu'ensemble nous puissions te donner gloire. Seigneur, je bénis ton saint nom. Oui, interviens, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit, Seigneur mon Dieu, dans le domaine sentimental, ou quelles que soient, Seigneur, les situations pour le travail, pour la famille, Seigneur mon Dieu, mon roi, il n'y a rien qui te soit impossible. Merci, Seigneur. C'est ce Dieu-là auquel nous croyons et nous savons que tu vas agir. Alors, Éternel, nous te disons merci pour ta présence, pour ton amour et ta fidélité. À toi seul la gloire. Amen.